RFI et France 24 présentent. Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans notre Café des Sports hebdomadaire comme chaque semaine grâce à RFI, grâce aussi à Facebook Live sur Internet et puis grâce à France 24. Vous pouvez nous voir, nous écouter, nous regarder. J'espère que vous êtes tous prêts parce que nos invités du jour sont aussi prêts. Bonjour Xavier Barret.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bonjour Rémi.
Bonjour Annie et bonjour à tous les téléspectateurs.
Bonjour Frédéric Suto.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde, les téléspectateurs, les auditeurs qui sont là, les premiers messages, Placide Kankonde qui salue la belle équipe du Café des Sports, et puis Abdoulah Fez Ayaoukata, bonne émission à vous, je prends vraiment du plaisir à vous écouter.
Eh bien, nous, on prend du plaisir à vous exposer nos analyses et toutes nos idées sur le football d'aujourd'hui. Alors, notre invité du jour, c'est Bruno Constant. Bonjour Bruno.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Pas mal de football anglais au menu du jour. Et donc, bien, vos lumières sont évidemment bienvenues pour agrémenter nos débats. Alors aujourd'hui, nous parlerons d'abord et nous commencerons par l'OM. L'OM, qui est des Marseillais qui sont sur leur belle lancée, hein, qui rêvent de deuxième place du championnat de Ligue 1. Pour l'instant, ils sont sur le podium, mais ils ne sont que troisième. Et l'occasion pour eux de se rapprocher ce week-end, de se rassurer aussi avant leur confrontation, avant de rencontrer les Parisiens. Un derby de la Méditerranée au stade Vélodrome entre l'OM et l'AS Monaco, entre donc le troisième et le quatrième. Une belle perspective pour ce championnat. Les clubs de Liverpool en plein brouillard, perdus dans un fog très anglais. Les Reds de Jürgen Klopp restent dans le ventre mou du championnat, sans trouver les ressources pour se rapprocher des places européennes. Et les Toffees d'Everton vont devoir lutter pour ne pas être relégués la saison prochaine. Ce sera en tout cas sans Frank Lampard, leur entraîneur évincé pour mauvais résultats. La Ligue 1, réservoir sans limite de la Première Ligue, eh bien, c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui et il nous semble bien que ce soit ça. Les joueurs prennent la direction insulaire du Nord, quel que soit le club qui les invite et encore plus quand un propriétaire est à cheval sur le Channel comme celui de Lorient et nous en parlerons. Au générique de cette émission, il y a bien sûr David Finzel avec Sarah Loubacouche qui m'ont aidé à préparer l'émission ainsi que David Brockway. Pour ce qui est de la réalisation vidéo, Swell Kedir, Yann Bourdela avec l'aide de Laurie. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Mais avant tout, quelques mots sur le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui se déroule toujours hein, du côté de l'Algérie et qui en est arrivé au stade des quarts de finale, c'est-à-dire des matchs à élimination directe. 4 matchs sont au programme, ces 2 jours, dans des villes différentes. À Alger, nous aurons Algérie, Côte d'Ivoire. À Constantine, il y aura Madagascar contre le Mozambique. Et à Oran, Niger, Ghana. À Annaba, ce soir, un derby régional. On vous en a parlé hier entre le Sénégal et la Mauritanie. Une rencontre avec en tribune l'un de nos envoyés spéciaux en Algérie, Martin Guèze, qui vous présente en son et en image la ville méditerranéenne qu'est Annaba.
Bonjour Annie, bonjour Sarah Lou Bakouche qui est aujourd'hui à la production et évidemment bonjour à tous ces messieurs qui sont en plateau avec vous aujourd'hui. Moi je me trouve à Annaba dans l'est de l'Algérie, quatrième ville du pays et une des villes hautes de ce CHAN, Annaba, ville méditerranéenne s'il en est. Je suis actuellement sur le cours de la Révolution, c'est un petit peu comme les Ramblas si vous connaissez Barcelone, c'est ici que les Algériens viennent boire leur café, boire leur petit thé ou un jus d'orange, ou évidemment déguster les fameuses briques d'Annaba qui sont très réputées. On n'est pas très loin de Gigelles, ville très chère au cœur de Nabil Djellit, et on est surtout voilà, dans une ville de la Méditerranée qui a vécu sous domination romaine, sous domination grecque. Ça sent un petit peu partout quand on se balade au niveau de l'architecture. On nous parle aussi d'influence de la Corse, de Malte, de l'Empire Ottoman, bien sûr, mais on est surtout dans une ville de football, ici à Annaba. Un petit peu partout en se baladant, vous ne pouvez pas les rater. On voit les fanions, les affiches, les drapeaux de l'USM Annaba, un club que vous ne connaissez pas forcément, et c'est plutôt normal, ce n'est pas un très grand club. Ils n'ont pas gagné de grands titres, en tout cas dans leur histoire, mais ils jouent même en deuxième division pour l'instant. Alors pourquoi ils sont connus? C'est vraiment pour la ferveur de ce public qui est complètement incroyable. Il y a quelques années, en 2018, quand ils sont remontés de la troisième à la deuxième division, le stade du 19 mai 1956 était en fusion, c'est le cas de le dire. On nous parle de 80, 90 000, 110 000 personnes, même pour les plus marseillais, des supporters, des fumigènes partout, des chants. Voilà, c'est vraiment pour nous montrer que c'est une ville de foot, cette ville d'Annaba, qui n'a pas eu beaucoup l'occasion de s'enflammer dans son histoire. Ils ont reçu la CAN en 1990, ils avaient un des deux groupes, l'Algérie n'avait pas joué, mais ils avaient vu par exemple le Cameroun ou encore le Nigeria en demi-finale, qui s'était qualifié pour la finale. Et cette année, c'est un peu la même chose, ils n'ont pas le pays hôte, en tout cas je vais vous montrer la CAN qui s'affiche un petit peu partout. On voit les drapeaux des équipes, voilà, on voit par exemple l'Ouganda qui a été reçu ici, il y a eu le Sénégal ou encore la RDC et la Côte d'Ivoire, des matchs qui ont rassemblé 35 à 40 000 supporters sous des trombes d'eau, vraiment. Aujourd'hui on a de la chance, il fait plutôt beau, mais c'est pour vous dire voilà, que ça a mobilisé en tout cas ce CHAN, ce championnat d'Afrique des Nations, avec des billets pas très chers, entre 200 et 300 dinars algériens, ça nous fait entre 1 et 2 euros pour assister au match. Mais vraiment, tout le monde nous dit la joie d'accueillir cet événement, tout le monde qui attend vraiment surtout la CAN en 2025, ils espèrent de tout leur cœur pour redonner un petit peu de raison de s'enflammer autour d'un grand événement sportif. Ils espèrent aussi voir l'Algérie un jour jouer ici. Et derrière nous, justement, quand on parle de l'Algérie, on voit le petit Coptan, je ne sais pas si vous le voyez un petit peu là-haut, le Fennec, la mascotte de cet événement. Mais voilà, c'était pour vous faire vivre un petit peu la ferveur de ce peuple algérien qu'on va continuer à avoir. Peut-être pas à Annaba, puisque le troisième match, le match en tout cas pour la troisième place, devait se jouer ici. Il sera finalement à Oran, mais nul doute que la ville continuera à s'intéresser à suivre ce championnat d'Afrique des Nations. Un taxi nous l'a dit, voilà, il y a vraiment un grand engouement. Ils étaient très contents de recevoir, que ce soit des supporters congolais, sénégalais, mauritaniens. La ville, en tout cas, a pu mettre toute sa ferveur à l'œuvre. Et puis moi, je vous souhaite une bonne fin d'émission et bonjour à Laurent Salerno qui est à la réalisation.
Nous aussi, on salue Laurent Salerno qui n'est pas à la réalisation aujourd'hui. Merci beaucoup, Martin Guez, pour cette carte postale venue d'Algérie où se dérouleront donc l'un des quarts de finale prévus au cours du week-end. Les résultats, eh bien, sur RFI, bien sûr, et sur le site, la page Afrique Foot. Nous, on continue et on s'attache donc à la Ligue 1. Les supporters de l'OM doivent chanter sur ces quelques notes. En tout cas, ils sont heureux. À la moitié du championnat, leur équipe, malgré tous les changements de l'intersaison, malgré aussi une triste élimination dans leur parcours européen, eh bien, cette équipe de l'OM va plutôt bien en championnat, très bien même, puisqu'elle elle aligne les victoires à l'extérieur comme au Vélodrome. Et elle se retrouve à la troisième place dans le viseur des Olympiens, bien sûr, eh bien, la deuxième place, puisque c'est celle qui est qualificative directement pour la Ligue des Champions, même si ces dernières années, on se demande un peu de quoi, à quoi ça a servi pour les Marseillais, n'est-ce pas, Xavier, ouais. Cette place de Ligue des Champions. Bref, le RC Lens jouera à 3 et il est à 2 points devant l'OM, à portée de victoire donc, et rien n'est impossible pour les Phocéens. Ils sont 3e, Monaco 4e. 5 points d'écart, donc de toute façon, ils ne perdront pas théoriquement leur troisième place, en tout cas pas là. Est-ce que les Monégasques, qui avaient été battus à l'aller, c'était le 13 novembre dernier, juste avant la Coupe du Monde, avaient été battus sur le rocher, est-ce que selon vous, ils sont encore fragiles, Xavier?
Oui, cette équipe de Monaco, il y a un vrai potentiel, il y a de la qualité, on sait, c'est un effectif important, mais il y a encore de l'irrégularité dans les résultats. C'est une équipe dont on ne sait pas ce qu'elle est capable de produire en fait sur le moyen terme. Donc l'OM a là, encore une fois, l'occasion de marquer des points contre un adversaire direct et de rester sur le podium, parce que c'est une formation qui est vraiment à un objectif très clair cette saison. Alors, on a parlé d'une victoire en Coupe de France parmi les supporters marseillais pour avoir un titre, mais bon, là, ils vont jouer le PSG au prochain tour, donc ça sera peut-être plus compliqué.
Tout est possible, ça sera au Vélodrome.
C'est possible, bien sûr, mais voilà.
Non, mais en tout cas, par rapport aux autres années, ça reste possible.
Ce qui est sûr pour l'OM, c'est qu'il faut aller en Ligue des Champions à nouveau. Parce que, d'abord, c'est le seul club français qui a été champion d'Europe. Et puis surtout, ils ont cet objectif sportif et financier. L'OM, s'ils veulent arriver à s'installer, à revenir de façon durable dans l'élite du football européen, il faut qu'ils soient en Ligue des Champions chaque année. Donc là, malgré les changements qui sont intervenus à l'intersaison, qui ont un peu dérouté au début, l'entraîneur, un certain nombre de joueurs, certains statuts déboulonnés, ben en fait, ça marche plutôt bien. Et moi, je ne vois pas pourquoi cet OM, qui n'est plus européen et qui peut donc se consacrer au championnat, ne serait pas sur le podium, voire même deuxième.
Frédéric, vous aussi, vous partagez cet avis que l'OM, alors on a vu hein, là pendant ce mercato d'hiver, ils ont un peu fait chou blanc, ils n'ont pas vraiment recruté ce qu'ils voulaient en tout cas.
Mais il y avait eu les limites de compétences à l'automne avec la Ligue des Champions. Ça avait cassé la dynamique et ça s'est senti à un moment donné en championnat. Mais c'est vrai que là, comme le dit Xavier, ils sont vraiment repartis sur de bons rails. La trêve avec la Coupe du Monde internationale a fait du bien à tout le monde. Et ceux qui sont revenus, regardez Vertoux, Guendouzi, qui n'ont quasiment pas joué avec l'équipe de France. Mais ils reviennent en ayant emmagasiné de la confiance. Ils étaient avec ces bleus champions du monde et on le ressent là sur le terrain depuis début janvier. Donc, est-ce qu'il y a besoin de recruter? Je n'en suis pas persuadé. Hein. Il a ce qu'il faut sous la main, là, Igor Tudor, Payet, Alexis Sanchez. Ouais. Il y a du bon monde du côté de l'OM.
Rémi, cette équipe de l'OM, est-ce qu'elle est à sa place et est-ce qu'elle peut être finalement gêner le Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain est finalement pas si loin. Il est à 5 points de l'OM. Et est-ce que ils devront se contenter d'être sur le podium ou vraiment attraper la deuxième place?
Ah non, mais l'OM, historiquement parlant, est un grand club. Ils ne peuvent pas se contenter ni de la troisième ni de la deuxième place. Ils sont.
Vous pensez qu'ils peuvent partir à la chasse de même du Paris Saint-Germain?
Le Paris Saint-Germain, c'est une foultitude d'individualité. Au début du championnat, on voyait que c'était vraiment l'ogre que personne ne pouvait rivaliser avec. Mais aujourd'hui, on se rend quand même compte que beaucoup d'entre eux, le niveau s'est délité. Et le Paris aujourd'hui, le Paris Saint-Germain de maintenant, n'est pas exactement ça. Or, l'OM s'est réorganisé parce qu'il faut quand même se voir que cette défense à trois, elle tient bien. Et surtout, l'OM n'est plus dans ce que, au début de la saison, faisait, dans la naïveté de la possession stérile. Aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, son match contre Rennes, ils ont carrément abandonné le ballon. Mais finalement, c'est eux qui ont réussi à gagner. Et puis, vous avez aussi un Guendouzi que je retrouve finalement un peu plus percutant maintenant, qui est un peu plus devant. Et j'ai toujours dit aux gens qu'il faut regarder la bonne équipe. C'est d'abord aussi la défense. Aujourd'hui, la défense de Marseille ne prend pas assez de buts. Et c'est très important. Et quand vous regardez
beaucoup,
par rapport à Monaco, il y a quand même 10 buts d'écart. Monaco a pris 10 buts de plus que l'OM. Ce qui signifie que l'OM est beaucoup plus cohérent, peut gagner avec un but et savoir conserver l'avantage. Et ça, c'est ça la marque des grandes équipes.
Ce qui est étonnant, Bruno, c'est que ce n'est pas les buteurs qui sont les meilleurs buteurs, en tout cas pas les attaquants qui sont les meilleurs buteurs de cette équipe de Marseille. Selon les statistiques, hein, 17 buts viennent ou des arrières centraux, on pense à Chancel Mbemba bien sûr, et puis aussi des latéraux. On a 15 buts venant des attaquants et 14 venant du milieu. Alors ça donne aussi peut-être plus de chance à cette équipe pour s'imposer, mais c'est vrai que c'est une manière intéressante d'être troisième du championnat.
L'OM, c'est vraiment une particularité, voire même un ovni. Moi, j'appelle ça un ovni parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on réclame, de tout ce qu'on attend d'un club compétitif. On attend de la stabilité, un vrai projet de jeu autour d'un entraîneur. Et à l'OM, c'est pas du tout ça. À l'OM, l'OM a fini deuxième la saison passée et on a tout changé. On a changé l'entraîneur, on a changé trois quarts de l'équipe et l'équipe continue d'être performante.
Oui, sauf sur le plan européen, derrière cette deuxième place.
Mais la Ligue des Champions, je pense que c'est un niveau encore au-dessus où ça demande un certain apprentissage. Il faut y revenir chaque année pour gravir les échelons. Mais en Ligue 1, ça marche en tout cas. C'est compétitif, c'est performant. Le danger dans cette équipe, il vient de partout. Il n'y a pas vraiment de réel avancement. D'ailleurs, l'OM parfois, on se demande s'ils cherchent vraiment un numéro 9. Ils font jouer des joueurs qui ne sont pas des vrais numéros 9. Ils vont céder Bamba Dieng. Ils ont Alexis Sanchez qui n'est pas un 9. Et dans les joueurs qu'ils recherchaient, par exemple, c'était Ilic qui est plutôt un milieu de terrain organisateur. Donc, c'est un club qui est très étonnant et qui a des problèmes financiers. Et il faudra à un moment donné regarder de ce côté-là, voir comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que la qualification en Ligue des Champions, elle est capitale. Mais je pense qu'elle peut même aller chercher un peu plus haut. Elle est qu'à 5 points du PSG. Le PSG, on les a vus, ils ne sont pas infaillibles, ils ne sont pas indestructibles. Ils ont perdu
à Lens. Ils vont les recevoir en Coupe de France, mais aussi ils vont les recevoir en championnat bientôt pour le match retour.
Et ce match de Coupe pourrait avoir aussi une incidence psychologique sur le regard entre les deux équipes. Moi, je pense que la marge entre les deux équipes, maintenant, elle est beaucoup plus fine qu'au début de la saison.
Non, mais c'est bien que l'OM soit compétitif, mais il ne faut pas rêver non plus. Si on
souligne...
Si on souligne, et Annie, vous l'avez rappelé, les performances des défenseurs de l'OM buteurs, c'est parce qu'il leur manque un vrai buteur devant. Bruno l'a dit, voilà.
Ça les empêche pas d'être efficaces.
Alexis Sanchez, ça les empêche pas de gagner en Ligue 1.
Ça leur donne plus de chance.
On l'a vu que effectivement, c'est une équipe compte tenu de l'énergie qu'elle déploie, qui devrait gagner avec un peu plus d'efficacité ces matchs plus largement. Or, cet OM est effectivement plaisant à voir jouer parce qu'il y a beaucoup d'engagement. Mais c'est quand même une équipe qui plafonne, notamment dans la qualité offensive.
Les équipes qui plafonnent à la deuxième ou troisième place, c'est plutôt un beau plafond pour l'instant.
C'est bien en Ligue 1.
Oui,
voilà.
Mais là, on parle
c'est
de la
bien
Ligue 1.
Là, voilà. Donc en Ligue 1, c'est bien. C'est bien. Voilà.
Le titre,
après,
c'est
on a vu que pour la Ligue des Champions, c'était insuffisant.
Non, mais là, on parlait de monter. Jusqu'où peuvent-ils monter? En gros, c'était ça, quoi, leurs ambitions.
Oui, mais après, moi, le titre de champion, franchement, j'y crois pas du tout. Je ne sais pas si ceux qui l'ont évoqué autour de cette table sont sérieux, mais franchement, l'OM ne peut pas être champion.
On n'a jamais vu le PSG échouer dans la course au titre face à une équipe inférieure.
Face à des équipes plus consistantes, plus cohérentes.
C'était Lille.
Lille de Galtier était une équipe qui avait, je pense, un pouvoir offensif plus intéressant que cet OM.
En 2017.
Et l'OM le Monaco 2017, c'était quand même
avec
le Monaco
Mbappé,
de Mbappé. C'était plus consistant devant.
Est-ce qu'il y a des commentaires ou des réactions de nos...
Oui, des commentaires. Alors, on souhaite bonne chance à Chancel Bemba depuis Bounia, en République démocratique du Congo. Mais pas mal de messages pour nous dire que c'est Monaco qui va gagner. Donc, ce match OM-Monaco, attention Monégasque, nous dit Archéduc.
C'est à cause d'Embolo qu'on nous dit ça?
Non, mais Embolo, Golovin,
Ben Yedder,
quand ils ont décidé de jouer...
Mais c'est vrai que pour le coup,
sur le papier, c'est limite le plus bel effectif derrière Paris Saint-Germain, Monaco.
Je suis d'accord, et c'est une équipe qui est indéchiffrable parce qu'elle est capable du meilleur comme du pire. Et là, pour le coup,
très irrégulière.
Et pour Monaco, c'est un peu le match de gala, de prestige. Là, on va chez le voisin marseillais au Vélodrome, 60 000 personnes.
Rémi, tu vois hausser les yeux au ciel?
Oh non, écoutez, je ne vois pas Monaco. C'est vrai que Xavier disait tout de suite que le Monaco de 2017, ça n'a rien à voir avec le Monaco de maintenant.
Évidemment, il n'y a plus rien à voir.
Le Monaco de 2017, c'était quand même avec des gens... Bon, ce n'est pas seulement Mbappé, il y avait Falcao qui était là.
Bernardo
Silva, qui était bel et bien là.
Et Jardim comme entraîneur.
Voilà, donc aujourd'hui, ce n'est pas ce Monaco-là, parce que ce Monaco était aussi très dangereux sur les côtés. Ce n'est plus exactement ça. Mais par contre, moi je dis, l'OM, je trouve beaucoup plus consistant parce que le milieu de terrain est beaucoup plus gonflé. Et ça, c'est comme on appelle le salon. Ça se fait là, ça se fait par derrière. Et je dis, je ne suis pas toujours d'accord avec les équipes où on me présente un potentiel offensif, mais je dis, tout se joue souvent par derrière. Et ça, les grandes équipes, c'est comme ça qu'elles gagnent. Donc pour moi, aujourd'hui, certes, lorsqu'on prend les individualités, Monaco au-dessus. Mais lorsqu'on voit la cohérence du jeu, c'est l'OM. Et le football, c'est un jeu d'équipe.
Igor Tudor donc plus fort que Philippe Clément. Match en tout cas au Vélodrome et ça sera samedi soir à 20h en temps universel. Continuons. On va vers l'Angleterre, Bruno, ça
avec
vous convient
plaisir.
Et on va vers le nord de l'Angleterre. Ça Ça souffle la tempête et il y a aussi du brouillard où on peut se perdre. Et oui, les clubs de Liverpool se sont un peu perdus ces jours-ci. Les deux clubs de cette ville parcourue par la Mersey ont perdu leur nord. En tout cas, le nord, ça serait le haut du classement de championnat d'Angleterre. L'équipe de Jürgen Klopp, qui, eh bien, ces dernières années, on était tellement bien habitués, n'est-ce pas, Bruno, on les voyait toujours essayer de remporter le titre et de le disputer si âprement à Manchester City. Eh bien là, ils sont, alors ils ont mal commencé la saison et les voilà dans le ventre mou. Ils sont 9e, ils n'en sortent pas vraiment. La semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, il y a eu un triste 0-0 face à Chelsea, qui va pas beaucoup mieux d'ailleurs. Et c'est vrai que cette équipe, elle est un peu inquiétante. Alors, il y a aussi beaucoup de monde à l'infirmerie, mais on aimerait bien comprendre ou savoir pourquoi cette équipe va mal actuellement, alors qu'on l'a vue si flamboyante ces dernières années.
Vous me demandez à moi si je sais
oui.
pourquoi. Si je le savais, je donnerai l'explication à Jürgen Klopp et résoudrai le problème. Non, c'est compliqué. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur déjà de la saison passée. La saison passée, ils ont été au bout des 4 compétitions et ils ont gagné que les 2 coupes nationales. Et je pense que le fait de perdre le titre à la dernière journée face à City et la finale de Ligue des Champions, la deuxième finale de Ligue des Champions perdue face au Real Madrid, je pense qu'elle a fait très très mal dans les têtes. Il y a une fatigue à la fois physique, mais psychologique et mentale. Il y a eu ensuite une saison qui était un peu bizarre, la saison en ce moment avec la Coupe du Monde qui a coupé cette saison en deux. Mais on a l'impression que ça manque un peu de gaz, un peu d'essence dans la machine et que souvent, ce qui faisait la force de Liverpool, c'est son milieu de terrain. Depuis maintenant 2-3 ans, Jürgen Klopp et Liverpool se sont attachés à reconstruire petit à petit cette équipe de Liverpool, qui n'arrivait pas forcément au bout de la route, mais il y avait besoin de rafraîchir, de rajeunir un petit peu cet effectif. On a vu le départ de Sadio Mané, qui doit forcément peser un peu cette saison. Il y a eu Firmino qui a un petit peu décliné. Et là, on voit aujourd'hui que le milieu de terrain Fabinho, qui était le grand milieu de terrain, Fabinho, Wijnaldum et Anderson. Wijnaldum est parti, il n'a pas été remplacé. Anderson, il a 32 ans, il commence à sentir un peu son âge, il a du mal à enchaîner les matchs. Et puis Fabinho, je ne sais pas où il est passé, mais si vous avez la réponse ou son adresse, on la veut bien parce qu'il est perdu de vue à Liverpool. Et aujourd'hui, Liverpool joue sans vraiment de bon milieu de terrain et il souffre de cet handicap.
Et pourquoi n'en recrute-t-il pas ?
Ils en ont recruté. Ils ont recruté, par exemple, Naby Keita, mais qui n'a jamais réellement confirmé. C'est une grosse déception à Liverpool. Ça fait déjà quelques années.
Il est souvent blessé.
Il est souvent blessé.
Très fragile.
Il y a eu Thiago Alcantara, très bon joueur, qui avec une très belle réputation, mais qui est un joueur, quand il a le ballon dans les pieds, il est très bon. Mais quand il doit courir après le ballon, il est beaucoup plus en difficulté. Et puis, il y a le jeune Harvey Elliott, qui est un jeune énormément de talent, mais qui a un profil un peu différent, qui aime bien plutôt avoir le ballon aussi en possession et pas forcément apporter de l'énergie, de l'intensité au milieu de terrain. Donc, on a un milieu de terrain qui est devenu bancal et qui affaiblit quelque part à la fois la défense, mais aussi le secteur offensif, où il y a beaucoup d'absents pour le coup. Parce que je pense que les absences de Luis Diaz, les grosses blessures de Luis Diaz, de Jota, ont forcément pesé sur l'attaque de Liverpool.
Qu'on avait vu très performant avant qu'il ne soit plus aligné pour blessure. Quoi.
Donc c'est un ensemble
c'est
de facteurs.
L'infirmerie aussi.
L'explication numéro un de ces problèmes de Liverpool. Vous laissez partir Sadio Mané. Attends Bruno, vous le remplacez par Luis Diaz. Vous sentez bien le coup. Il fait un premier semestre formidable puisqu'il arrive en cours de saison. Vous prenez Diogo Jota qui déjà l'année dernière avait été très bon. Et là les deux sont sur le flanc. Vous prenez Darwin Núñez, il peut pas s'acclimater. Vous pouvez pas faire tourner. Vous avez besoin de lui. Les autres sont blessés. Donc vous lui mettez une pression supplémentaire et c'est vrai qu'en plus il se prend un carton, il est suspendu 4 matchs, etc. Son début de saison est compliqué. Votre attaque est complètement flinguée. Or Liverpool, c'est aussi cette efficacité offensive qui fait que même si parfois ils concèdent des buts, ils en marquent toujours plus que l'adversaire.
Donc
c'est quand même ça le problème numéro un. À ça se rajoute la blessure de Van Dijk. Et la blessure de Van Dijk est aussi capitale parce qu'on se souvient que la dernière fois que Van Dijk a été absent de façon importante, Liverpool a raté sa saison.
Mais le Van Dijk, donc voilà, les deux, il manque pas à Liverpool parce qu'il n'a pas été bon.
Il n'a pas été bon peut-être, mais là il est carrément absent. Lui, il n'y a pas franchement.
C'est pour ça, c'est multiples facteurs.
Facteur très important, cette infirmerie de Liverpool qui est pleine.
Rémi, quel est votre regard sur cette équipe de Liverpool ? Est-ce qu'on va la voir, aussi ils sont à la moitié du championnat en gros, est-ce qu'on va la voir revenir ? Est-ce que grâce au retour de certains joueurs importants et Darwin Núñez
pour l'instant, ils sont 9e à 10 points de la 4e place, qui est l'objectif.
Est-ce qu'on les verra européens surtout ? Alors peut-être pas Ligue des Champions, au moins Ligue Europa.
C'est difficile pour cette équipe-là parce que je crois quand même que c'est aussi la défaillance de Jürgen Klopp qu'on n'aime pas souvent critiquer, tout comme, bien évidemment, quand vous avez Simeone au niveau d'Atlético, eh bien, chaque saison, Xavier Barré trouve des circonstances atténuantes, mais quand il s'agit de Mourinho et autres, allez, hop, il faut flinguer. Moi, je dis quand même, là, nous avons une équipe...
Et pourquoi ce serait la faute de Klopp?
Ah ben, parce que, justement, son système, c'est quoi? C'est trop de pressing. Et vous savez très bien que une équipe de football n'est constituée que d'êtres humains. Et ces êtres humains, bien évidemment, même un véhicule, lorsque vous roulez avec, vous passez en première, vous passez en deuxième, vous passez en quatrième, Jürgen Klopp, il commence le match à la cinquième vitesse et vous devez finir à la cinquième vitesse. Et donc, dans tous les cas, le moteur finit par s'emballer. Donc aujourd'hui, quand vous voyez les joueurs de Jürgen Klopp, ils n'ont plus de gaz. Ça, c'est la première des choses. Ils demandent maintenant, où sont-ils passés? Et autre chose, le danger numéro un, c'était quoi? On nous a dit que c'était Salah, on nous a dit que c'était tel, que c'était Firmino. Mais le vrai danger, c'était, bien évidemment, Sadio Mané. C'est comme aujourd'hui aussi au niveau du Real, on a un grand danger qu'on appelle Vinicius. Sergio Mané, il prenait de la profondeur, il faisait ceci. Maintenant, vous dites que vous avez remplacé avec Diaz, avec tel autre, avec tel autre. Mais prenez eux tous. Mais il y a un proverbe africain qui dit « Le con abandonne son cheval pour faire confiance à l'âne ».
Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont d'accord avec Rémi. Hein. Abdoulaye Djiba, ça se voit maintenant que Mané était le véritable moteur de Liverpool.
On l'entend
alors, je sais pas, peut-être qu'on caricature un peu, mais c'est vrai, ce que disait Bruno au début, finalement, pendant 3-4 ans, il a fonctionné avec la même équipe, Jürgen Klopp. Ouais. 2018, 2019, là, jusqu'à l'année dernière, les finales de Ligue des Champions, il y en a eu quoi? Il y en a eu 3. Et on avait Mané, Salah, Firmino. Et oui, bon, ben voilà, ils ont tous 3-4 années de plus et Mané est parti, donc forcément.
Ce 11-là n'a pas explosé, mais pas loin, mais c'est normal. Les années passent et il faut apporter du sang neuf.
Est-ce qu'il s'est renouvelé, Jürgen Klopp?
Je ne pense pas que la principale explication, ça soit le départ de Sadio Mané. C'est un joueur extraordinaire, il a fait une carrière extraordinaire à Liverpool. J'aurais préféré qu'il reste plutôt que de le voir au Bayern où il est quand même moins bon.
Petit rappel, c'est le deuxième au Ballon d'Or.
Oui, non, mais c'est un joueur. Non, mais il n'y a aucun doute là-dessus.
C'est comme si vous dites aussi que Benzema, départ du Real, c'est rien.
Le débat, c'est pas de savoir
si c'est le deuxième au Ballon d'Or.
On sait que c'est un grand joueur, mais c'est pas le problème de Liverpool aujourd'hui.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, Bruno, un problème d'investisseur? Parce que là, Jürgen Klopp a tressé un peu des éloges. Oui. Eu des éloges envers les dirigeants, hein, ce groupe qui s'appelle le FSG, si je ne me trompe pas. L'investisseur en disant on est entre de bonnes mains. Et on sait par ailleurs que finalement ce groupe voudrait peut-être, américain, investisseur, voudrait peut-être se défaire du club. Est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement du mou dans la direction qui fait que ça peut se reporter sur les résultats?
C'est difficile de dire.
On le voit dans d'autres clubs. Hein.
Non, mais c'est difficile d'entendre Jürgen Klopp se plaindre des moyens financiers dont il a à disposition.
Non, mais c'est peut-être une indication. Parce que
Liverpool, Liverpool en Europe reste un des clubs les plus riches. Il y a eu le classement, ils sont dans les 6e ou 7e du classement. Donc ils font partie des clubs les plus riches. Mais ils sont forcément un peu moins riches que le PSG, que Manchester City ou que Chelsea, qui a des moyens quasiment illimités. Et on le voit encore avec Chelsea durant le mercato. Donc forcément, il attend un peu plus d'efforts et de soutien de la part de ses dirigeants en termes de recrutement.
Donc c'était un message.
Ils l'ont fait ces derniers mois. Luis Diaz, ils l'ont recruté l'hiver dernier, ça coûtait cher. Darwin Núñez, c'est 80 millions d'euros. Ils ont pris Gakpo encore. Il est soutenu malgré tout. Il est soutenu.
Alors, on essayait de comprendre ce qui va mal du côté de Liverpool en se demandant si on allait les voir remonter au classement, eux qui ont si souvent chassé les Citizens. Mais il y a un autre club où ça va encore plus mal à Liverpool, et c'est l'autre club de Liverpool, comme on dit, celui qui joue en bleu, et c'est Everton. Everton, alors, fini hein, les années Ancelotti, on s'en souvient, Benitez et tout ça, où là, on était assez proche du podium, proche de l'Europe et tout. Le club s'est enfoncé cette année à la 19e place. Ils sont donc en place de relégable. Frank Lampard, qui était l'ancien joueur blues, hein, parti donc chez les Bleus d'Everton, il vient d'être remercié. Bon, son bilan est un peu difficile. 44 matchs, 12 victoires et 24 défaites. Est-ce que cette éviction est logique? Est-ce que c'est une éviction aussi panique?
Elle devenait inévitable parce qu'à un moment donné, il fallait faire quelque chose et on voyait qu'avec Lampard, il n'y avait pas d'évolution. Il a réussi à maintenir le club la saison passée. Il est arrivé en cours de saison, il a réussi à les maintenir grâce à un super sprint en fin de saison. On pensait d'ailleurs qu'il allait s'appuyer sur cette dynamique cette saison et malheureusement, ils sont partis dans leur travers. Mais la principale responsable à Everton aujourd'hui, c'est les dirigeants. C'est les dirigeants qui font une gestion absolument catastrophique de ce club avec des investissements hors normes. C'est un des clubs qui a le plus dépensé en transfert sur les 5-6 dernières saisons. Ils ont dépensé 700 millions d'euros en achat de joueurs. Alors si on fait le bilan net, c'est la moitié, c'est 400 millions d'euros, mais c'est encore énorme pour un club comme Everton qui ambitionne seulement la 7e, 6e, 8e place. Et à force de ces investissements calamiteux en termes de joueurs, bah forcément l'équipe s'est affaiblie au fur et à mesure. La seule belle période, en dehors de la période Moyes qui commence à dater, c'est celle d'Ancelotti. Mais Ancelotti, il avait fait marcher son réseau quand il va chercher James Rodriguez. Personne n'imaginait James Rodriguez jouer à Everton. Donc il avait haussé le niveau de cette équipe. Mais depuis, tous les meilleurs joueurs sont partis. Les investissements qui ont été faits, ils ont recruté des joueurs moyens très chers. Et aujourd'hui, l'effectif, il est très moyen. Donc quelque part, Everton est presque à sa place. Et Lampard, il y a eu des protestations de la part des supporters d'Everton qui étaient vraiment à direction des dirigeants d'Everton. Ils ont d'ailleurs menacé de surtout ne pas venir au stade de match à domicile dans le cadre de menaces, ce qui a été très très loin. C'est la première fois que c'est arrivé dans l'histoire du club. Mais Lampard n'était pas visé par ces critiques, parce qu'on a bien compris que Lampard, il faisait ce qu'il pouvait avec les moyens qu'il avait à disposition.
On y reviendra.
Il y a quand même un élément pour rejoindre ce que disait Bruno. Depuis le départ de David Moyes il y a 10 ans, 7 entraîneurs, sans compter les intérimaires. Or, effectivement,
pourtant,
il dépense de l'argent.
Moyes, c'était pas Ferguson. On pourrait penser que...
Sous David Moyes, en 10 ans, ils étaient tout le temps 5e, 6e. Et là, ils font venir entraîneur. Et qu'est-ce qu'il fait venir? Il fait venir ses joueurs. L'année d'après, on change. Il fait revenir ses joueurs. Donc, effectif pléthorique, mais catastrophique. Beaucoup d'argent dépensé mal. Et à l'arrivée, un club historique, 9 fois champion d'Angleterre, menacé de relégation.
On a Galagay qui est là-bas, qui est retourné là-bas, sénégalais. Iwobi, nigérian.
Oui, pour essayer de sauver les choses.
Il y a Pickford, le gardien de l'équipe d'Angleterre. Il y a quelques bons joueurs dans cette équipe, mais actuellement...
Question, courte réponse pour passer au sujet suivant. Bruno, il y a des rumeurs qui disent que Marcelo Bielsa pourrait venir prendre l'équipe.
Non, alors il a rencontré les dirigeants à Londres aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, pour écouter leur projet. Et il a bien vu que c'était un bourbier monumental. Donc, on n'imaginait pas Bielsa arriver en cours de saison. Il a besoin d'une préparation d'avant-saison pour mettre sa méthode.
Ce n'est pas un pompier terrible.
Et le favori aujourd'hui, il est même a priori en train de signer, ça serait Sean Dyche, l'ancien manager de Burnley. Et quel profil parfait en termes de pompier de service pour essayer de sauver Everton.
On y reviendra sur le cas Everton, puisqu'ils recevront dans la prochaine journée, qui ne sera pas ce week-end, puisqu'il y a la Coupe, mais le week-end d'après. Et ça sera la réception des Gunners d'Arsenal. Et malheureusement, ils risquent de passer un mauvais moment, les Toffees. On continue, mais on va toujours parler de football anglais. Et oui, vous entendez ce bruit, ces monnaies sonnantes et trébuchantes, parce que l'attrait de la Première Ligue, on n'a pas besoin de vous le dire, tous les joueurs rêvent d'y aller un jour. Et quel que soit le club finalement, que ce soit un club de Première Ligue ou que ce soit un club de Championship, parce que là-bas on se montre, on est beaucoup regardé et en plus on gagne beaucoup. Mais alors l'exemple récent du FC Lorient a peut-être de quoi inquiéter. Ça ne vous a pas échappé, on en avait parlé d'ailleurs la semaine dernière, Frédéric. Dango Ouattara, le Burkinabé, est parti de Lorient vers un club qui va très mal. Il est juste au-dessus d'Everton, Bournemouth, menacé lui aussi de relégation. Il est 18e parce que le propriétaire ou l'investisseur, qui est le même des deux côtés, c'est-à-dire un certain Bill Foley, a dit il faut qu'il parte là-bas pour essayer de sauver le club. Et ces déclarations font donc un peu peur, puisqu'il dit « Nous aurons bientôt un troisième club européen, donc il en a deux, situé peut-être en dessous de la Ligue 1, et ensuite nous regarderons vers l'Amérique du Sud. Comme ça, le club uruguayen pourra nourrir le club belge, qui nourrira le club français, qui pourra nourrir la Première Ligue. » La Première Ligue est toujours en bout de fil. Et il dit aussi « Nous recherchons uniquement des clubs qui ont un bon centre de formation. » Est-ce que c'est inquiétant pour la Ligue 1, Rémi, alors qu'on sait qu'énormément de joueurs sont formés en France et partent notamment en Angleterre, mais sont très regardés.
Mais c'est ce que j'ai toujours dit. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes dans une pépinière. Et dans cette pépinière, on vient, on prend.
On se sert.
Malheureusement, les jeunes poussent. Parce que parfois, ou bien quand quelqu'un veut déjà briller, c'est là où on vient, on le prend. Donc, C'est déjà le cas. Donc, quand on essaie de regarder, par exemple, que Lyon venait d'avoir l'un des meilleurs centres de formation, et que maintenant, ce lion-là n'a même plus de possibilité de pouvoir positionner qui que ce soit, on se dit quand même qu'aujourd'hui, le championnat d'Angleterre, la Premier League, a beaucoup d'argent. Et s'ils ont beaucoup d'argent, c'est parce que c'est un modèle économique. Peut-être qu'au niveau de l'éthique, il n'y a pas.
Ce n'est pas un modèle de formation.
Ce n'est pas un modèle de formation.
Ouais,
il n'y a pas de formation là-bas.
Si, si,
mais
si,
le problème,
si,
c'est
si,
qu'il
si,
y
si,
en a.
Si,
mais bon,
si,
écoutez,
ce n'est pas un modèle.
Non, mais attendez.
Ah, si, Manchester United est un des clubs qui a le plus mis en avant son académie des années.
Je vais quand même te dire que lorsque tu essaies de regarder le modèle français et qui a été pillé, c'est-à-dire que de la période Benzema, où peut-être il était l'un des derniers, les autres aujourd'hui n'ont même pas ces capacités-là. Et rapidement, on pille au championnat de France parce que le championnat de France n'a pas les mêmes droits, ne bénéficie pas des mêmes droits.
Mais
les clubs,
c'est pas l'histoire de droit,
pas que le championnat de France. L'Angleterre est le championnat le plus riche du monde.
Ah oui, mais
les droits télé, c'est 6 milliards d'euros de droits domestiques sur le contrat 2022-2025 pour les droits domestiques, et les droits à l'étranger, pareil, ils ont été encore augmentés par un nouveau contrat avec NBC.
Pour la première fois, les droits internationaux ont dépassé les droits nationaux.
2,4 milliards sur 6 ans versés par Comcast aux États-Unis. Donc c'est un championnat qui a chaque club a à peu près 4 fois plus d'argent que les clubs de Ligue 1.
Je disais, les investisseurs, par exemple Abramovich, quand il partait là-bas, c'était 13 milliards.
Donc
c'est pas nouveau.
Moi, la question qu'on se posait, c'est est-ce que le fait que les propriétaires soient les mêmes des deux côtés ne fausse pas encore plus la donne? C'est-à-dire effectivement, on se dit je veux sauver un club là-bas, j'envoie le meilleur, tant pis si l'Orient descend parce que c'est moins prestigieux.
Oui, mais d'un autre côté, regardez Troyes qui fait partie du City Football
Group bénéficie
effectivement du soutien du City Football Group, récupère quelques joueurs anglais que Manchester City ne peut pas faire jouer, mais qui voudraient faire jouer, donc ils viennent jouer en Ligue 1. Donc ça peut marcher aussi dans les deux sens. Mais clairement, de toute façon, le championnat d'Angleterre est depuis de nombreuses années au-dessus de la Ligue 1 par sa puissance financière.
Il faudrait peut-être réglementer quand même tout ça, parce que on l'a vu... Il y a eu d'autres investisseurs, c'est pas qu'en Angleterre. On a eu par exemple Salzbourg qui servait de pépinière pour Leipzig.
Oui. Qui sert toujours.
Oui, c'est les groupes.
Non, mais ces transferts-là, 27 millions pour Dango Ouattara. Il est jeune, c'est un super joueur, pas de souci, il a marqué 6 buts avec Lorient. Mais est-ce qu'il vaut vraiment 27 millions? On a l'impression qu'on arrange un peu les comptes de chaque côté parce que c'est le même propriétaire. Quand on voit ce qui se passe en Italie avec la Juventus où on a un peu fonctionné comme ça en surévaluant certains transferts pour équilibrer les comptes,
ça existe depuis plusieurs années.
Il y a des choses différentes.
Il y a
des choses différentes. Le problème de la Juve, c'est différent. Ils ont gonflé des transferts, mais le cas avec Lorient et Bournemouth, comme on peut avoir avec City et Troyes, ou comme on avait avec Watford, Cerreron et Ludinese.
C'est
qu'en fait, l'argent va permettre parfois de gonfler certains budgets de certains clubs, ou les caisses de certains clubs, par exemple Lorient. Parce que Bournemouth, l'argent qui est sorti par Bournemouth, c'est rien, 30 millions d'euros, c'est rien du tout pour Bournemouth qui a les droits de la Première Ligue. Ils vont renflouer les caisses de Lorient, qu'en avaient peut-être besoin, ça va leur faire du bien. Eux, ça ne va pas leur percer les caisses. Et c'est là qu'il va falloir surveiller effectivement si les transferts ne sont pas gonflés, dans le sens de faire circuler l'argent uniquement dans un seul groupe. Parce qu'en fait, au final, qu'est-ce qui se passe entre Bournemouth et Lorient? On sort l'argent d'une poche et on la remet dans l'autre. Et ça va être intéressant au niveau du fair play financier.
Mais les clubs à cheval entre plusieurs pays et tout, là par exemple, celui qui vient de racheter l'OL, Textor, il a un club au Brésil, Botafogo, il en a en Belgique.
Et
pour
il a
l'instant,
Crystal Palace
il
en Angleterre.
Il a Crystal Palace. Ouais. On a Ineos qui est candidat à racheter Manchester United et qui a Nice qui devait être le phare un peu de son groupe au point de vue club. Et ça sera peut-être Manchester United. Donc,
Annie, le football aujourd'hui, quand vous parlez de business, c'est aussi comme des multinationales.
Que ce soit les mêmes propriétaires, c'est ça où on se posait la question. On dira, toujours, on prendra les meilleurs,
Même magasin, comme vous voyez en France, vous le trouvez.
Non, c'est la même chose
aujourd'hui.
Non, parce que
le
problème qui va se poser,
c'est-à-dire que tu te retrouves, tu as des magasins. Que ce soit en France, tu peux les avoir en Angleterre, aux États-Unis et en Afrique.
Oui, il n'y a pas de concurrence entre les magasins, là.
Ah, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter, là?
Non, mais c'est la même chaîne. C'est que si les clubs-là se rencontrent dans une même compétition... Non, mais le problème qui peut se poser, c'est si les clubs qui appartiennent au même groupe se rencontrent dans une même compétition, d'où la compétition de la Coupe d'Europe. C'est ça qui va poser problème. Et c'est pour ça que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les grands clubs qui ont des groupes qui se développent, ils achètent des petits clubs pour justement qu'il n'y ait pas ce problème dans les compétitions.
Oui, enfin, tu as eu si un jour, Lorient, qui était même dans le, qui sont retrouvés face à la Coupe d'Europe.
Là, c'est un problème.
Et l'UEFA s'est retrouvé, mais il y a encore plus longtemps, il y avait Chelsea avec le CSKA Moscou, sponsorisé par Abramovich, qui était dans le même groupe, je crois que c'était même dans le groupe du Paris Saint-Germain. Et l'UEFA avait mené une enquête et avait trouvé rien à redire. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on appelle des investisseurs, ils viennent avec leurs règles et l'UEFA, la FIFA essayent de réguler ça, mais c'est très compliqué parce que vous voulez des investisseurs dans le football, ils viennent avec leur façon de fonctionner. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 200 clubs dans le monde qui sont concernés par ces multipropriétés.
Frédéric, vous aviez un petit mot, non, nos auditeurs?
Non, mais c'est le débat qu'on soulevait. Il faut cet argent qui circule, comme vous dites.
Peut-être le réglementer.
Fermé. Ouais.
Ça sera invérifiable parce que les montants de transfert, c'est subjectif en fait. On l'a même vu que la Juventus Turin se sont basés.
Mais qui aurait acheté, à part Bournemouth, Ouattara pour 27 millions?
On ne le saura jamais.
Personne ne s'est manifesté.
Peut-être un autre club anglais.
On continuera à suivre ce dossier et à voir si les transferts valent la peine ou pas. Pour ce qui est de maintenant, eh bien, c'est déjà notre dernière partie de l'émission et ce sont les cartons.
Carton jaune,
un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Et commençons par un carton vert de l'équipe de Radio Foot à Jean-Marc Despeignes et Pierre Gros qui partent aujourd'hui pour de très longues vacances et on leur souhaite bon vent. Maintenant, on donne la parole à nos auditeurs internautes.
Bonjour. C'est Espérance Loutaya, congolaise de Brazzaville, depuis Accra, le Ghana. Alors, mon carton, il est vert et je l'attribue à Kylian Mbappé pour avoir marqué le tout premier quintuplé de l'histoire du Paris Saint-Germain contre le pays de Cassel en Coupe de France. Et je tiens à faire un big up à Rémi Ngono pour ses superbes proverbes africains. Je dois avouer que j'apprends beaucoup. Rémi, merci infiniment.
Bonsoir, comment vous allez? Ça revient. Je vous salue vous tous. Aujourd'hui, mon carton est vert spécialement pour Annie Gassin. Annie, moi je l'adore trop. Si je le vois souvent dans cette émission-là, il me fait rêver souvent. En tout cas, Annie Gassin, carton vert à toi. Et Rémi Ngolo, hier, Cristiano Ronaldo a frappé très très fort. Bye, bon week-end à vous tous.
Bonjour, Lionel Combo depuis le Cameroun. Bonjour à tout le studio. J'adresse un carton rouge à Moustapha le pétrolier, alias Ronaldo, qui a été éliminé. Un adage africain qui dit une bougie ne peut pas aller faire le stage à côté du feu.
Salut Radio Foot International, Camille Soko Sekou depuis les Émirats Arabes Unis. Mon carton est vert, c'est à la Mauritanie, le Madagascar et le Niger pour la qualification en quart de finale du CHAN. Je pense que le niveau de formation s'améliore dans ces différents pays. Ciao, à bientôt.
Bonsoir à tous sur le plateau, principalement à la belle et resplendissante Annie Gasnier, c'est Kienou Mazogi Valérie depuis la Côte d'Ivoire, principalement dans la ville de Yamoussoukro. Je voudrais attribuer un carton vert à Marcus Rashford qui nous est revenu de la Coupe du Monde métamorphosé. Il est devenu le Rashford d'il y a 2-3 ans, 18 buts, 5 passes D. Il est devenu merveilleux, intenable sur le terrain. Carton vert à lui.
Et à Emirates, aujourd'hui, on a tapé Manchester United. 3-2, carton vert à Edin Keïtia. Et puis, bien de choses à la fin.
C'est Famadou Lelement depuis la Guinée. Ce matin, je voudrais donner un carton vert aux Gunners d'Arsenal, les hommes de Mikel Arteta, pour leur parcours sans faute jusque-là en première ligue. Franchement, cette équipe est en train de nous émerveiller aujourd'hui en nous leur souhaitant bonne chance et juste de leur rappeler que le championnat est loin de connaître son épilogue, donc de ne rien prendre pour acquis.
Salut Radio Foot International, moi je suis Djekilambe Pierre, un Xavier Bariste vivant à Yaoundé au Cameroun et un Barcelonais que je suis. Je porte le maillot des Real pour soutenir Vinicius. Et profiter en même temps de donner un carton rouge aux supporters de l'Atlético qui se comportent comme des animaux et non comme des humains à l'endroit de Vinicius. Vinicius, courage à toi.
Bonjour Radio Foot, je suis Amad Sed, je vous suis depuis Mundu, au sud du Tchad. Cette semaine, je décerne un carton vert au Norvégien Erling Haaland qui a marqué 25 buts en 19 matchs. Ce gars est tout simplement phénoménal, vraiment bravo à lui.
Bonjour Madame Annie Gasté et à toute l'équipe de Radio Foot International. C'est Boubacar Diallo depuis la capitale guinéenne Conakry qui dédie cet après-midi un carton vert, un carton très vert à toute l'équipe de Radio Foot International et à l'équipe du Café des Sports pour tout ce que vous faites allant dans le sens de nous mettre au courant, au parfum de l'actualité footballistique mondiale. Alors sachez que moi j'ai un rêve et ce rêve-là c'est d'un jour s'asseoir dans un studio de RFI et parler football dans l'émission Radio Foot International. Inch'Allah. Et je ne doute pas que je peux y arriver, comme le dit un ancien président américain. Nos limites de demain se trouvent dans nos doutes d'aujourd'hui. Donc moi, je ne doute pas et je travaille pour. Alors, bon Café des Sports à vous, surtout, surtout, bon week-end.
On l'attend déjà dans le Café des Sports, n'est-ce pas, Xavier hein. Vous lui ferez une place entre vous et Bruno Constant.
Plaisir,
comme ça,
plaisir.
On verra si lui aussi, il a des proverbes emmagasinés.
Il a l'air pas mal sur les proverbes, hein, la concurrence. Ouais. Hein.
Le carton de Radio Foot International est rouge et il va à un éléphant, mais un éléphant blanc. Un stade abandonné à son triste sort, construit pour la CAN 2017 au Gabon. Ce stade, c'est celui de Oyem. On y voit encore le logo hein, de la CAF. Il n'a pas servi depuis les matchs de cette compétition. Et qui nous a ramené ces photos un peu trop tristes? Et on ne voit pas la pelouse qui est, paraît-il, envahie de végétation. Eh bien, c'est notre reporter de choc, Olivier Pron, qui l'a constaté. Alors, c'est dommage parce que ça n'émeut personne et pas vraiment les dirigeants de la Confédération africaine de football non plus. À qui passer eh bien, je vais passer... qui est-ce qui a mis du rouge? Il y a Bruno Constant aussi.
Ouais, du rouge.
Rouge.
Carton rouge, ouais, au président, dirigeant de fédération française de sport, les trois plus importants, c'est-à-dire le football avec Noël Le Graët, le handball avec Bruno Martini et le rugby avec Bernard Laporte, avec trois présidents de fédération ou de ligue pour Bruno Martini, qui sont dans des grands soucis, empêtrés dans des affaires. Et il serait temps, on a souvent critiqué les fédérations africaines de foot, il serait bien qu'on regarde aussi de notre côté en France et qu'on balaye devant notre porte, il y a beaucoup de travail à faire. Et donc il serait temps de faire du ménage dans ces fédérations.
Allez, on passe à une couleur plus chatoyante, oui, du vert, Xavier.
Vert, parce que je suis ce châne avec intérêt, c'est une belle compétition. Et j'ai bien aimé le Niger. Vous vous rendez compte, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Alors, ce n'est pas la première fois, ils s'étaient déjà qualifiés en 2011, mais avec le même sélectionneur qui les avait qualifiés pour la CAN 2012. Ils n'ont fait que deux fois la Coupe d'Afrique des Nations. Pour eux, c'est extraordinaire. Et ils l'ont fait en battant le Cameroun, alors qu'ils n'étaient vraiment pas favoris. Un superbe coup franc. Bon, il est dévié, d'accord. Mais bon, voilà, un bel exploit pour les MENA amateur ou le MENA local, et il faut le signaler quand ça marche aussi.
Oui, on en parle, on le suit ce chan dans Radio Foot et sur RFI. Frédéric.
Un carton vert, l'esprit coupe, la Coupe du Roi en Espagne, la Coupe en Angleterre, la Coupe de France. Moi j'adore cette période tous les ans du mois de janvier, quand vous avez les grosses équipes, les premières divisions, là, qui jouent leur premier tour de Coupe, contre parfois, suivant le tirage au sort, des clubs amateurs, dans des décors improbables, des tribunes, il y a de la neige, le terrain qui est détrempé. On a vu Nantes, tenant du titre de la Coupe, qui a failli tomber contre une cinquième division.
Ils sont sortis
au tir au but. Bon, l'esprit coupe, c'est sympa et on retrouve vraiment ce qui nous fait aimer le football.
Ah oui, la passion football autour du terrain. Rémi.
Mon carton n'a pas de couleur. Parce que je porte des habits noirs. Mon cœur saint de fiel, de douleur, d'amertume. Pour cet homme que vous pouvez regarder, Martinez Zogo, il était journaliste, investigateur. En réalité, sa première passion, c'était le sport puisqu'il était un attaquant. Et un abruti a eu à faucher son genou. Et j'ai découvert son talent. Il s'est reconverti, grâce à moi, en grand animateur et journaliste d'investigation. Il avait des dossiers. On a préféré le crucifier de façon la plus barbare. Il était fidèle auditeur du Café des Sports. Et c'est pour cela que je vous supplie de pouvoir observer quelques secondes de silence pour Martinez Zogo.
Martinez Zogo, dont on a parlé aussi dans Radio Foot cette semaine. Merci.